week-end sur RKS. Rendez-vous avec le miroir des sciences.
Vous saviez déjà que le projet de nouveau réacteur nucléaire EPR en construction depuis plus de 10 ans en Normandie a largement dérapé dans son planning comme dans son budget. 19 milliards d'euros contre 3,5 prévus initialement rapportait l'été dernier le quotidien Ouest-France d'après les calculs de la Cour des comptes. Mais ce n'est pas le seul grand projet qui dérape. Il y a 30 ans, le 1er décembre 1990, deux ouvriers, l'un britannique et l'autre français, se serraient la main dans une ouverture de roche sous la Manche. Leur salut symbolisait ce qui allait devenir le fameux Eurotunnel reliant définitivement les Froggies au roast beef. Il est bien temps d'en parler à l'heure du Brexit. De 4,5 milliards d'euros annoncés en 1986, le fameux tunnel aurait finalement coûté 15 milliards d'après l'encyclopédie Universalis. Autre exemple, tout à fait d'actualité celui-là, le James Webb Space Telescope, qui doit scruter le ciel à la place du télescope Hubble, est aussi un projet qui dérape. Il devait initialement être lancé en 2007, rappelait le mensuel Ciel et Espace en juillet dernier, alors que la NASA annonçait un lancement désormais programmé en octobre 2021. Le plan initial prévoyait un budget de 500 millions de dollars, d'après Le Monde. On est aujourd'hui à 10 milliards. Tout cela est bien la preuve que les ingénieurs savent nous faire rêver tout autant que les artistes, mais ils sont plus forts que ces derniers pour nous convaincre de maintenir leur salle ouverte. Pragmatique, gratuite et toujours à l'heure, c'est RKS 97FM, l'esprit grenoblois. À 11h, la cuisine de Francis et tout de suite, le miroir des sciences. Vous avez le droit à votre propre opinion, mais pas à vos propres faits. Parole de Paul Romer, prix Nobel d'économie 2018. Voici le Miroir des sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger. L'artiste Pauline de Chalendard a détourné une œuvre de Jean-Baptiste Carpeau à l'aide des technologies d'une jeune société grenobloise du numérique baptisée ISKN AMI. Elle donne à voir l'œuvre de Carpeau dans toute son intimité et le spectateur l'explore à sa guise sous tous les angles. Pauline de Chalendard est avec nous ce matin sur RKS. Bonjour Pauline, oui, vous faites bien d'orienter le micro plutôt vers vous si vous voulez nous parler. Alors qu'est-ce que vous faites habituellement le samedi matin quand vous n'êtes pas à la radio?
Bonjour, je pense que les samedis matins en ce moment j'irai skier, faire du ski de randonnée. Dans ma montagne.
Ah bah oui, puisque vous habitez à la neige, comme on dit.
Voilà.
Nous dialoguerons avec Timothée Jobert de la société ISKN AMI, qui est aussi un camarade à vous en quelque sorte, à propos de cette technologie qu'il vous a prêtée. Et puis nous sommes en studio avec Damien Bouévin, fondateur de Nemeton, le Biolab de Grenoble. Bonjour Damien. Alors, pourquoi je vous entends pas, Damien? Voilà.
Ça y est, bon. Voilà, bonjour à toutes et à tous.
Défavorisé. Alors, de quoi vous nous parlez? Comme chaque mois, vous venez nous donner des nouvelles de votre capsule.
C'est ça. Les travaux touchent à leur fin. L'inauguration approche à grands pas, selon si elle sera faisable en présentiel ou non. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu d'art science au sein de l'association Nemeton.
Et en fin d'émission, nous nous intéresserons aux activités de l'Union des industries de la protection des plantes avec sa directrice Eugénia Pomaret. Les industriels des produits phytosanitaires s'engagent avec l'ensemble de la filière agricole à garantir une agriculture moderne, innovante et respectueuse de la santé et des ressources naturelles, c'est dit comme ça sur leur site. Nous demanderons donc à Eugénia Pomaret, avec Damien, quelle est sa vision de l'agriculture dans 30 ans. Alors, bonjour, rebonjour Pauline de Chalendard.
Rebonjour.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'ébauchoir?
Alors, Les Bochoirs, c'est mon dernier projet artistique en date. Il s'agit d'un dispositif d'exploration numérique tangible, comme je l'appelle. C'est un peu compliqué, mais ça part vraiment...
Ah oui, moi je vous arrêterai sur ce terme de tangible quand même, parce que je ne l'ai pas du tout compris.
Ah
mais
oui.
On y reviendra peut-être
D'accord,
un peu tout à l'heure.
Pas de problème. Alors en fait, ça part de la volonté que j'ai depuis plusieurs années de faire sortir le virtuel du virtuel, de ramener du réel dans le virtuel. Parce que c'est vrai que j'ai une activité artistique numérique assez importante depuis la fin de mes études, que j'ai terminée au Frénois, qui est un centre d'art contemporain et d'art numérique au nord de la France. Et donc, j'ai développé une technique me permettant de dessiner dans l'air en réalité virtuelle, en dessinant autour de moi, en m'immergeant dans mon propre dessin, en dessinant des lignes qui restent bien accrochées dans l'air. Et c'est vrai que avec le temps, j'ai eu des difficultés à montrer ces dessins virtuels autrement que par le biais de la réalité virtuelle. Et pour moi, la réalité virtuelle, c'est un outil d'exposition qui est intéressant, un outil de création qui est très intéressant, mais c'est pas forcément un dispositif d'exposition, dans le sens où c'est très individuel, on est isolé dans un casque, en plus avec les mesures sanitaires actuelles, ça serait très compliqué. Donc, j'ai travaillé avec l'Atelier Science, l'Hexagone et ISKN, dont vous avez parlé, avec qui on va s'entretenir dans un instant, un dispositif qui permet au spectateur de ne pas chausser de casque, mais de déplacer un stylet caméra virtuelle, un objet caméra virtuelle, autour d'une petite maquette qui est la retranscription, qui est la réplique dans le réel du dessin 3D qui a été fait en amont.
Alors, on reviendra sur les aspects techniques dans la partie suivante de l'émission, mais là, j'aimerais bien que vous nous parliez aussi de l'œuvre que vous avez choisie.
Bien
une
sûr.
Œuvre de Jean-Baptiste Carpeau, qui est une œuvre complexe, puisque c'est un haut-relief ou une sculpture, on va dire, avec 9 personnages, et qui, en plus, à l'époque où elle a été créée par Jean-Baptiste Carpeau sous Napoléon III, a fait polémique.
Tout à fait.
Alors, donc, elle est d'autant plus intéressante à aller explorer dans son intimité.
Absolument, oui. En fait, oui, j'ai eu carte blanche par le département de l'Isère pour réinterpréter une des sculptures, un des chefs-d'œuvre du sculpteur, peintre, dessinateur, etc., Jean-Baptiste Carpeau, donc du 19e siècle. Et j'ai choisi la danse qui est le groupe sculpté. Donc, c'est un haut-relief, on va dire, un des plus emblématiques du sculpteur, il y a beaucoup de visages très expressifs, il est connu pour ça, c'est vraiment le sculpteur des visages. Et j'ai donc cette sculpture a fait polémique en fait au moment de sa sortie, donc sur la façade de l'Opéra Garnier à Paris, à cause de la nudité et des poses lascives des bacchantes, donc les danseuses qui constituent le groupe. Et moi, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais reprendre ces danseuses-là. Le génie de la danse, donc le personnage central s'est envolé. Je n'en parle pas dans mon dessin. Mais par contre, j'ai redessiné donc ces 6 danseuses en imaginant un peu leur position, en imaginant aussi le processus de création, donc les différentes étapes qui peuvent avoir mené le sculpteur à finaliser son œuvre, donc l'ébauche, le croquis, l'ancrage, la finalité, et puis le modelage, etc. Et voilà, ça donne une ronde en fait de 6 danseuses qui ont l'air de bien s'amuser.
Vous écoutez le Miroir des Sciences sur RKS. Nous sommes ce matin avec Pauline de Chalandard qui nous a fait l'amitié de descendre de sa montagne pour venir parler avec nous à l'heure du marché de sciences, de technologie et puis d'art aussi. Miroir des Sciences sur RKS. À l'instant, on écoutait Björk. Donc, je vous ai aussi préparé une programmation musicale un peu particulière. Alors que Björk, bon, c'est bien connu. Vous verrez, les morceaux suivants sont un peu moins connus et un peu plus dédiés, peut-être. On va voir, Pauline de Chalanda. Alors, vous parliez d'une œuvre tangible. De quoi s'agit-il ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle est tangible, votre œuvre ou votre dispositif d'exploration de cette œuvre de Jean-Baptiste Carpo ?
Alors, elle est tangible parce que on a vraiment quelque chose de palpable, en fait, très concrètement, devant soi, dans l'espace d'exposition. Donc, actuellement, au musée Hébert, à La Tronche, pour l'exposition Jean-Baptiste Carpo, concrètement, on rentre
Malheureusement, le musée est fermé.
Oui, actuellement, c'est un peu vite dit, mais effectivement, dès que ça réouvrira...
En plus, on avait pris rendez-vous pour aujourd'hui parce que vous aviez normalement programmé une visite
tout
cet
à fait.
Après-midi.
Oui, on avait plusieurs visites guidées qui, malheureusement, n'ont pas pu être maintenues. Mais on ne perd pas espoir. Et dès que ça réouvrira, on sera là pour l'exposition. Donc, dans l'exposition, on a cette statuette, vraiment, qui représente... c'est une réplique des six danseuses que j'ai dessinées en 3D. Et cette statuette, ainsi que le stylet, qui ressemble à un ébauchoir. Un ébauchoir, c'est un outil, en fait, de modelage qu'on utilise, que les sculpteurs modeleurs utilisent dès le début, en fait, de leur travail, sur terre, sur différents types de terre. Ça
sert des matériaux souples pour commencer
exactement
à mettre en forme.
Donc c'est un outil en bois qui a deux extrémités en général différentes et qu'on peut, en venant appuyer sur la matière, on peut venir creuser, créneler, etc. Donc je me suis inspirée de ce mot pour le titre. Et donc tangible parce que c'est palpable, c'est dans le réel, on peut toucher, on peut saisir un objet et on a du coup une perception de la profondeur de la 3D qui est appuyée, qui est complétée par cette expérience tangible. On va dire que c'est un pas dans le réel, un pas dans le virtuel, ce projet.
Alors, votre ébauchoir, évidemment, il est numérique, peut-être pas virtuel. Moi, j'ai toujours un problème avec cette terminologie de virtuel, parce que virtuel, ça veut dire qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a rien du tout. Donc, je préfère toujours dire digital. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
D'accord.
On est au téléphone avec Timothée Jaubert. Bonjour, Timothée. Alors, est-ce que il nous entend ? Allô ? Allô, allô ? Allô, Timothée ? Allô, allô ? Bon, écoutez, visiblement, on a perdu la liaison avec Timothée Jaubert. C'est un petit peu dommage. Donc, il est cofondateur de la start-up ISKN, qui s'appelle aujourd'hui AMI.
Oui.
Et donc, c'est la technologie de cette entreprise que vous avez détournée, en quelque sorte, disons, avec leur accord.
Oui, bien sûr.
Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Alors, c'est dans le cadre d'un partenariat de ma résidence à l'atelier Arts Sciences. J'ai travaillé avec ISKN à partir de leur nouveau produit qui est une tablette qui s'appelle Tori et qui a été développée donc eux-mêmes l'ont développée à la base avec la grande agence de jeux vidéo Bandai Namco dont une annexe est basée à Lyon. Et donc moi, quand j'ai découvert ce produit, ça m'a tout de suite donné envie d'en faire quelque chose d'artistique, de l'utiliser pour mes projets, pour ma recherche artistique. Et donc, dans le socle, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est une tablette, ce qu'on ne voit pas, en fait, ce qui est dissimulé dans le socle, c'est une tablette qui fonctionne sur la technologie magnétique. Donc, c'est une dalle magnétique qui capte les coordonnées d'un aimant qui est caché dans le petit stylet. Et donc, de façon très simple et en même temps assez technique, une combinaison de technologies, on peut déplacer un objet, un aimant en fait, un petit aimant au-dessus de cette tablette et récupérer en temps réel ses coordonnées.
Alors, on essaye de voir si Timothée est en ligne avec nous. Allô, allô ? Allô, allô ? Ah, voilà. Là, ça marche, là, peut-être, non ? Allô ?
Bonjour.
Ah, voilà.
Bon, donc je demandais, je mettais un petit peu Pauline à l'épreuve, puisque je lui demandais de décrire un petit peu la technologie qui est la vôtre. Alors, parlez-nous un peu de cette start-up AMI, qui commercialise donc cette technologie ISKN, donc qui a fait l'objet de cet appui, j'allais dire presque un transfert, c'est pas tout à fait un transfert de technologie, en tout cas un transfert de compétences dans les mains de Pauline de Chalandard. Vous pouvez nous parler un peu de votre entreprise du coup ?
En quelques mots et très rapidement, donc la société AMI a été créée en 2014. Nous sommes en fait issus d'un centre de recherche public qui s'appelle le CEVA-LETI. Donc c'était l'objet d'un projet déjà qui avait 3 ans au sein du CEVA-LETI, qui avait été exposé dans le cadre d'un salon art science qui s'appelle Experimenta en 2012. Donc c'est la première fois où nous avons présenté la technologie que nous avons développée. L'objet.
Oui, vous fréquentiez déjà Experimenta. Dès 2012.
Voilà, on travaillait déjà avec l'atelier Art Science, et donc on avait présenté l'œuvre une collaboration avec un artiste qui s'appelle Matt B. Voilà, donc ça c'était notre première collaboration avec l'atelier Art Science, et par ailleurs, donc plus généralement, la société AMI a pour mission de faciliter, d'enrichir l'interaction avec justement le monde du numérique, le rendre plus humain, plus facile d'accès, en permettant aux gens d'interagir avec des objets physiques, ce qu'a pu expérimenter finalement Pauline, et d'interagir avec ces objets physiques dans le digital. Donc l'idée, c'est de pouvoir en fait utiliser les objets qui nous entourent, un crayon papier, un ébauchoir, un objet type jouet, et de l'utiliser pour pouvoir contrôler le monde du numérique. Voilà.
Comment vous êtes rencontrés avec Pauline ?
Ah, c'est une bonne question. Alors moi j'ai rencontré d'abord une membre de ISKN, Maëva, qui est illustratrice par ailleurs, et qui dans le cadre, c'était un projet il y a quelques années déjà, je voulais travailler sur une petite vidéo de communication pour un projet, et j'avais découvert la Slate, qui est leur donc à l'époque je pense que c'était la Slate 2+, la deuxième version d'une tablette qui permet de dessiner, donc développée par ISKN, qui permet de dessiner à la fois sur papier et à la fois sur ordinateur. On garde la sensation du papier avec un stylet, et en même temps
est enregistré. Cette techno vous inspirait déjà?
Voilà, et donc j'ai contacté ISKN, et ils m'ont fait le plaisir de me prêter une tablette. J'ai pu développer des dessins autour de ça, et de fil en aiguille, j'en suis venue à rencontrer Timothée et les autres membres de l'équipe.
Timothée, quand vous participez à un projet comme celui-là, évidemment, c'est pas ça conduit pas directement à du business pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporte dans la démarche d'innovation de ISKN ?
Alors, je vais dire deux choses un peu différentes l'une de l'autre, deux aspects un peu différents l'un de l'autre. Le premier, c'est qu'effectivement, ça ne sert pas à gagner de l'argent. L'objectif, c'est plutôt de pouvoir explorer finalement les frontières de ce qu'on peut faire avec une technologie. C'est déjà ce que Pauline avait fait dans le cadre de son projet sur l'exposition Rembrandt ou le cabinet Rembrandt. Donc ça, c'était une première collaboration, et finalement à travers ça, Pauline a pu nous montrer d'autres manières d'exploiter finalement la technologie, de faire des choses avec la technologie. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous a intéressé plutôt comme boîte à idées. Et puis le deuxième aspect, qui est un aspect un peu différent, c'est que ça fait sens pour une société comme la nôtre. C'est-à-dire que Pauline a la gentillesse de venir régulièrement nous présenter ses travaux. Et tous les ingénieurs, toutes les équipes marketing qui travaillent au jour en jour à fabriquer des produits peuvent rentrer en relation directe avec quelqu'un qui a son propre univers, qui a envie d'utiliser finalement leur travail pour faire quelque chose de différent qui a du sens pour elle et qui a souvent du sens pour les gens. Donc ça
met du sens en ce moment, on en a besoin plus que jamais.
Exactement, et une certaine forme de gratuité qui crée aussi du sens. C'est-à-dire que il se passe quelque chose de l'ordre de l'imagination, de la créativité, Et voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment apprécié par les équipes au quotidien. Et je dis les équipes et nous aussi, c'est-à-dire que nous, on adore pouvoir échanger avec des artistes comme Pauline qui fait des choses assez extraordinaires. Et voilà, c'est un vrai plaisir.
Timothée Jobert de la société AMI. Donc votre produit phare, c'est toujours la Sketch Note. On la trouve à la FNAC à Grenoble.
Alors, ça a changé de nom parce qu'on a fait quelques générations.
Alors, allez-y, renseignez-nous.
Voilà, ça s'appelle Repaper. Oui, effectivement, ça se trouve à la FNAC ou sur notre site isken.co. Donc, c'est vraiment une tablette qui permet de donner vie aux créations en papier. Donc, on peut utiliser un papier crayon. Voilà, c'est une belle collaboration qu'on a depuis 2 ans avec une société allemande qui s'appelle Faber-Castell, qui est bien connue de gens qui font du graphisme. Voilà, donc c'est quelque chose qui est
accessible. Oui, Pauline acquiesce.
Tout à fait.
Et puis on a quelques jolies surprises pour les mois à venir, donc voilà.
Des surprises. Bah écoutez, vous viendrez nous en reparler alors.
Tout à fait.
Merci à vous. Vous écoutez RKS, c'est le miroir des sciences. On revient dans un instant avec Pauline de Chalandard et Damien Bouévin, bien sûr. Mixeur Dexter of Yourself en hommage à la série télévisée éponyme et sanglante. Elle vient du classique et du punk. Lui, il aime le jazz et il joue du funk. Dans la semaine, ils sont tous les deux salariés d'une grande entreprise très sérieuse et le week-end, ils se lâchent pour composer. Le groupe s'appelle donc Tendre Mixeur et il nous accompagne pour la suite de l'émission Pauline de Chalandard. Alors, vous avez devant vous la collection des miroirs de l'émission, qui justifie le titre de notre émission, et vous allez pouvoir en choisir un. Alors, un miroir, c'est un objet scientifique par excellence, c'est un défi technologique à fabriquer aussi, et puis c'est un objet du quotidien avec lequel on peut faire plein de choses, plein d'autres choses même que de se mirer et de vérifier son maquillage. Alors, vous en avez choisi un.
Oui,
vous
tout à fait.
Vous pouvez nous le décrire.
Alors, c'est une lentille, je pense. C'est un miroir circulaire, très régulier, et que j'ai choisi parce qu'il est très ergonomique. Il rentre dans la main. Et il y a une petite boursouflure, là, une petite cassure d'usure, je pense. Et c'est pareil, elle est pile poil à la taille des bouts des doigts. Du coup, je l'ai trouvé très agréable.
Il est encore plus ergonomique après usage que dans son dessin initial, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement. On a envie de le mettre dans sa poche, de partir avec. Et il me fait penser au format des boîtes de Petri. Il me fait penser à une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Michelle Rovner, qui a travaillé avec des petits films d'animation diffusés dans des écrans qui ont un petit peu cette forme-là et qui sont éclairés donc sur une sorte de vitrine, qui sont éclairés par en dessous. Et c'est assez magique, en fait. On a l'impression de voir des petites bêtes microscopiques, mais qui sont en fait des humains, se déplacer en rond. Enfin voilà, c'est assez sociologique, anthropologique. Et donc voilà, j'ai choisi ce miroir pour ça.
C'est celui que vous avez choisi dans notre collection. Alors parlez-nous un peu de votre parcours.
Oui.
Donc, ce qui vous a amené
tout à fait.
À cette collaboration avec ISKN, à l'ébauchoir, à Experimenta.
Alors moi j'ai un parcours assez classique à la base. J'ai fait un lycée STIR appliqué pour déjà avoir un pied dans la pratique artistique. Je savais que c'était ce qui me plaisait à l'époque. Et puis je suis ensuite partie aux Beaux-Arts dans deux écoles d'art différentes à Épinal et à Nancy. Et donc la première école d'art était notamment bien axée sur la pratique du dessin, sur le rapport texte-image, tout ce qui est des métiers graphiques. Et j'ai trouvé ça super intéressant, mais j'avais envie de sortir le dessin de la feuille de papier et de le mettre dans l'espace, donc de travailler davantage l'installation artistique. La 3D, c'était un peu tôt, ouais. mais à l'époque déjà, je faisais des expérimentations avec de la vidéoprojection à travers des plaques de verre. Je dessinais, je peignais sur les plaques de verre, des choses comme ça. Et donc ça partait dans tous les sens et c'était très chouette d'expérimenter ça. Et par la suite, j'ai eu la chance de rentrer donc au Frénois, qui est une école spécialisée art numérique et cinéma.
C'est une école très spécifique qui est à Tourcoing.
Tout à fait, ouais, un post-diplôme. Et c'est au cours de ma dernière année, donc la deuxième année au Frénois, dernière année d'études, que j'ai rencontré une équipe de recherche qui s'appelle le PIRVI, qui est rattachée au laboratoire Cristal, qui est lui-même rattaché au CNRS, à l'Université de Lille et à l'INRIA. Donc c'est un laboratoire rattaché à plusieurs organismes et qui travaille sur les interactions homme-machine, en particulier en réalité virtuelle, en environnement immersif.
Alors vous êtes né dans le 9-3, comme on dit, en Île-de-France. Vous avez parlé de Nancy, vous avez parlé de Tourcoing dans le Nord. Et qu'est-ce qui vous a amené dans les Alpes ?
Alors dans les Alpes, c'est vraiment un choix personnel avec mon compagnon. On avait envie de se rapprocher le plus possible des montagnes. Et du coup, on s'est dit, quelle est la plus grande ville ? Quand même une grande ville. J'avais besoin, après le Frénois, de rester dans une forte densité de population et d'opportunités. Donc Grenoble, pourquoi pas ? On a essayé Grenoble et ça a très bien marché. Et puis, par chance, j'ai aussi assez vite rencontré et développé des chouettes collaborations avec tout le milieu art et sciences de Grenoble, Hexagone, Atelier Sciences CEA, etc. Donc c'est une belle chance. Ouais,
un bel écosystème, selon vous.
Tout à fait, exactement.
Chaque week-end sur RKS, rendez-vous avec le miroir des sciences.
Call me. Call. your silence is finest. Silence, silence is finest. Call me, call, call me, call me. Your silence is finest. Your silence is finest. Your silence is finest. Call.
Le silence de Tendre Mixeur, ce groupe francilien qui continue d'illustrer cette émission avec Pauline de Chalandard. Alors, Pauline, point n'est besoin de vous présenter Damien Bouévin, parce que je crois que vous vous connaissez,
On se connaît déjà.
Damien vient une fois par mois nous donner un peu des nouvelles de ses projets qui sont foisonnants, à la fois foisonnants et structurés. C'est vrai, il faut vous rendre hommage. Alors, de quoi vous nous parlez aujourd'hui? Allez, je vous laisse la parole.
Eh bien, bonjour François.
Tout d'abord, je tiens à souhaiter une bonne année à toutes et à tous. 2020 n'a pas toujours été simple, clairement. Nous ne pouvons que souhaiter que les choses s'améliorent un peu durant 2021. Aujourd'hui, nous allons parler d'art, nous allons parler de science, nous allons parler d'art-science. Pour cette première chronique de 2021, je vous propose de parler un peu des premières ébauches de projets art-science au sein de l'association Nemeton.
Alors, comme vous m'avez glissé les répliques à vous donner au cours de cette chronique, je lirai. Bonne année à vous aussi, Damien.
Merci, François.
Mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices qui vous êtes?
Bien sûr, tout d'abord un peu de contexte. Je suis Damien Bouévin, le coordinateur de l'association Nemeton. Il s'agit d'une association de culture scientifique basée à Grenoble et spécialisée dans la biologie, les biotechnologies et l'environnement. Nous ouvrons à la fin de cet hiver un biolab. Il s'agit d'un laboratoire de biologie associatif qui se trouvera au sein d'un nouveau tiers-lieu associatif à Grenoble, la Capsule.
Un tiers-lieu, dites-vous?
Les tiers-lieux, d'une manière assez générale, sont tous ces lieux qui ne sont ni le travail ni la maison, typiquement tous ceux dont nous sommes privés en ce moment d'ailleurs. Dans ce cas-ci, la Capsule sera un lieu situé à l'ouest du quartier Charrier-Beria, qui hébergera de nombreux espaces d'activité différents gérés par différentes associations. Un Media Lab, un café-restaurant associatif, une salle polyvalente, un espace de coworking et enfin le premier biolab en dehors de Paris.
Bon, allez, vous cessez un peu votre publicité puis vous nous parlez de vos projets.
Alors que l'ouverture approche, que notre communauté d'adhérents et d'adhérentes s'agrandit déjà et que plusieurs de nos projets collectifs ou accompagnés sont en cours. D'ailleurs, l'un d'entre eux est venu à cette radio avant-hier, une champignonnière urbaine que nous accompagnons dans sa R&D. Il est possible, même si je ne peux pas en dire trop pour le moment, que nous travaillons sur notre premier projet accompagné d'art-science. Il s'agit d'une performance de danse, et même si la direction artistique reste à affiner, de notre côté, notre proposition technique est de capter des signaux biologiques et de les transformer en entrées informatiques capables d'influencer durant la performance la musique, les lumières, du mapping sur elle ou sur le décor. Et enfin, les signaux qu'on peut capter, cela peut être son rythme cardiaque, la température de sa peau, sa respiration ou même les signaux qui parcourent son système nerveux et commandent son activité musculaire.
Alors, comment vous vous y prenez pour capter ces signaux?
Alors, pour capter ces signaux avec le moins de gêne possible pour la danseuse, et ça c'est quelque chose qui me paraissait important, j'ai eu l'idée de partir sur les travaux d'une université chinoise qui sont sortis en 2018. Il s'agit de capteurs biométriques qui sont tout simplement des bandes de papier sur lesquelles on dessine des motifs précis au crayon à papier gras, justement, et qu'on colle sur la peau à l'aide de lacs. Le tout sera relié à l'unique petit boîtier électronique sur le corps de la danseuse, à l'aide de peintures corporelles conductrices. Et du coup, l'alliance des deux, entre les capteurs papier et cette peinture corporelle conductrice, pourra même faire partie intégrante de l'esthétique recherchée sur la danseuse durant le spectacle. Ce projet est excitant, mais malgré tout, quelque chose me turlupine déjà. Lors des journées de l'informatique théâtrale, l'année dernière, organisées dans le cadre d'Experimenta, j'ai appris l'existence d'un phénomène qui semble assez courant dans les performances de théâtre et de danse qui font appel à des effets numériques. Nombreux seraient les spectateurs et spectatrices à ne pas percevoir l'interaction. Il semblerait en effet qu'une bonne partie, voire la majorité du public, pense tout simplement que tout est scripté et ne pense pas que les relations de cause à effet ont réellement lieu en direct. Ce qui forcément, au vu des efforts techniques que cela demande, soulève la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle. À cette question, je n'ai pas encore la réponse, mais soyez sûr que dès que j'aurai du nouveau, je vous tiendrai au courant.
Bah oui, vous êtes réinvité le mois prochain. Alors je note quand même que dans vos expérimentations, vos projets, vous avez besoin de quelqu'un. Alors c'est pas tout à fait le cas de Pauline de Chalandard, qui elle a travaillé sur des personnages qui sont représentés sur de la pierre. Vous, il vous faut quelqu'un et c'est forcément une danseuse, c'est forcément une femme. Qu'est-ce que vous allez en plus barder de papier gras, de peinture conductrice, etc.
Non, là je dis elle parce que je suis influencé par le fait qu'effectivement on commence à travailler avec quelqu'un, mais ça pourrait effectivement être un danseur.
Pauline de Chalandard, ça vous inspire
ouais,
un peu?
Est-ce
que ça vous ouvre des perspectives parce que...
Bah, ce que je trouve vraiment intéressant dans ce début de projet, c'est l'utilisation de matériaux plutôt liés aux arts plastiques, pour le coup. Le crayon gras, le papier, la colle, la laque, etc. C'est vraiment... moi, ça déroule tout un imaginaire autour des outils, des médiums vraiment plastiques. Et pourtant, qui ont un but, vraiment un rôle à jouer, et pas juste esthétique ou anecdotique, mais vraiment un rôle à jouer dans le développement scientifique de votre projet. Et ça, c'est très, très chouette. Vraiment intéressant. Bravo. J'ai hâte de voir la suite.
Alors, avant d'aller toucher à de tels outils, revenons un petit peu à votre travail et à ce stylo caméra qui vous a été permis grâce à la technologie de YesKN, on l'a vu. Ce stylo caméra, il permet aux spectateurs, ou comme on dit aux visiteurs, au public, de rentrer dans l'œuvre de Jean-Baptiste Carpeau, tout en s'affranchissant de casques de réalité virtuelle, qui sont des casques qui sont quand même enfermants dans un univers numérique.
Exactement. En fait, moi, je me sers vraiment de la réalité virtuelle presque au quotidien pour dessiner et pour également animer des ateliers participatifs, collaboratifs, où d'autres personnes que moi portent le casque et dessinent ensemble, parce qu'on a un mode collaboratif en binôme qui fonctionne très bien.
Ça, je dirais que pour le voir en image, il suffit de taper votre nom, Pauline Chalandard, sur un navigateur.
Exactement.
On ne va pas citer sur quel navigateur il faut y aller. Et on trouve plein d'images de ces
ateliers. C'est vrai, c'est vrai que ces ateliers font leur propre com et du coup, je n'ai pas besoin de m'en occuper et ça m'arrange bien. Et il y a beaucoup d'images qui ressortent de ça et qui sont très, très chouettes. Je pense que c'est la moitié de ma pratique. Ça représente aujourd'hui la moitié de ma pratique et j'en suis très contente. C'est vrai qu'ensuite, quand on passe les portes d'un lieu d'exposition ou d'un centre d'art comme le musée Hébert à La Tronche, la réalité virtuelle, c'est un peu plus compliqué. Effectivement, c'est quelque chose d'un peu individuel, avec des contraintes sanitaires compliquées. Forcément, la présence d'un surveillant de salle ou d'un médiateur. Alors que moi, ce que j'aime arriver en arrivant dans un musée, c'est arriver les mains dans dans les poches, être vraiment libre de ma circulation, de ce que je vais voir, de ce que je prends le temps de faire, et donc ne pas être dans un circuit numérique, digital, trop compliqué. Donc là,
pas trop accompagné,
et là, du coup, je reprends un petit peu avec les Beauchoirs ces codes-là des expositions, donc un socle, une statuette qui peut faire penser à une petite sculpture, même si on est sur de l'impression 3D, c'est beaucoup moins noble que de la pierre ou que du bronze ou autre. Mais voilà, je reprends un petit peu ces codes formels-là qui, du coup, rassurent aussi un peu le spectateur et à la fois le piège un petit peu aussi. C'est-à-dire que quand on arrive devant les Beauchoirs, on ne s'attend pas à ce qui va se passer sur l'écran, donc donner vie au dessin, allumer la musique, c'est une façon interactive de faire et voilà.
Et surprendre,
c'est
créer
ça.
De l'émotion, c'est toujours
exactement.
Le ressort ultime que l'artiste veut.
Tout à fait, c'est le but.
Veut faire vibrer chez chacun d'entre nous.
Exactement.
Alors, dans vos projets, il y a l'espoir de la reprise de l'exposition au musée Hébert.
Bien sûr.
À la Tronche. Hein.
Oui.
Bien sûr. Peut-être ces ateliers aussi qui ont dû être interrompus auprès des scolaires, auprès de différents publics. Et est-ce que vous avez de nouveaux grands projets? Avec de nouvelles technologies.
Alors, des grands projets avec des nouvelles technologies.
Vous tente pas de rejoindre Damien là dans sa capsule?
Ouais, ça serait intéressant en tout cas d'aller visiter ce nouveau lieu. Alors après, tout est un petit peu en friche effectivement avec cette année la 2020 qu'on vient de passer, mais c'est vrai que avec justement ISKN, AMI qu'on vient d'avoir au téléphone, il y a des choses qui peuvent éventuellement commencer à se mettre en place. Donc on s'est rencontrés en décembre dernier et on a parlé notamment ce fameux passage de la 2D à la 3D qui intéresse énormément de monde, moi y compris. Donc comment passer avec des outils de dessin tels que par exemple ceux que développent ISKN, Repaper, LasLate, etc. Donc des outils de dessin à plat sur un support, comment garder toute leur qualité, mais en passant dans la 3D, une bonne fois pour toutes, et pouvoir passer voilà, de la 2D à la 3D librement en utilisant les qualités des deux dimensions, si vous voulez. Et ça, moi, ça m'intéresse vraiment, ça me passionne, et je pense que ça peut annoncer le début d'une nouvelle collaboration avec cette entreprise.
Des perspectives dont vous pourrez revenir nous parler.
Hein. Avec grand plaisir.
Pauline de Chalandard est descendue de Prapoutel jusqu'à Grenoble ce matin pour nous faire le plaisir de parler avec nous dans le cadre du Miroir des Sciences. Merci beaucoup à vous. Donc, on peut effectivement, du point de vue visuel, vous chercher sur Internet ou chercher les Beauchoirs, Pauline de Chalandard, chercher Experimenta aussi. Il y a beaucoup de mots-clés qui mènent à vous, finalement.
Un grand merci.
Pour mieux vous connaître.
Merci beaucoup.
Allez, à très bientôt.
Au revoir. The palm of your hand, like a pillow. You're staring at the drops on the window. Running down in slow motion. Drawing slightly the cage of your transparent life. Thank you.
Troisième morceau sur RKS de ce groupe Tendre Mixeur qui nous accompagne ce matin. Je suis de retour en plateau avec Damien Bouévin et nous sommes au téléphone avec Eugénia Pomaret qui est directrice de l'Union des industries de la protection des plantes. Alors, on stigmatise... Bonjour madame, vous êtes là ?
Oui, bonjour.
Voilà, déjà, bonjour. Première vérification technique pour être sûr que vous êtes bien en ligne. On stigmatise donc souvent les industriels comme de gros pollueurs et j'ai trouvé qu'il y avait donc une étrangeté, voire une bizarrerie à rapprocher dans l'acronyme d'un syndicat professionnel, la notion d'industrie et celle de nature. Alors l'UIPP compte 19 membres industriels des produits phytosanitaires. Certains les perçoivent comme des méchants chimistes prêts à tout pour refourguer aux agriculteurs les pires fonds de sauce de leur laboratoire. Et pourtant, ils s'engagent avec l'ensemble de la filière agricole à garantir une agriculture moderne, innovante et respectueuse de la santé et des ressources naturelles. Je vous le livre comme c'est indiqué sur le site de l'UIPP. Alors, Eugénia Pomara, quelle est la vocation de l'Union des industries de la protection des plantes ?
Alors, c'est un syndicat professionnel et la vocation première, c'est effectivement de rassembler les entreprises du secteur, 19, comme vous l'avez dit, les représenter, interagir avec toutes les parties prenantes. Ça peut être effectivement l'administration, mais aussi la profession agricole, notre cœur de métier, puisque les produits mis sur le marché par nos membres, comme vous avez dit, sont destinés à l'agriculture, et aussi les associations, milieux associatifs, tous les milieux scientifiques, donc toute partie prenante qui peut s'intéresser au sujet produits phytosanitaires. C'est aussi le rôle d'une association d'être moteur, de mener des actions communes à ses membres. Dans notre activité, nous le faisons sur tout ce qui est amélioration des pratiques, la sécurité et l'utilisation des produits, mais au sens large sur les thématiques de demain, l'innovation, tout ce qui peut être un moyen de mettre en action et de mettre en place des projets qui sont communs aux membres de l'association.
Vous travaillez en relation avec le monde de la recherche scientifique ?
Tout à fait. Alors nous, en tant qu'UTP, en interaction sur des projets, nous sommes par exemple membres d'un consortium public-privé assez récent sur tout ce qui est biocontrôle. Je vais peut-être y revenir, mais c'est toute une partie des solutions qui s'appuient sur tout ce qui est action biologique et en quelque sorte mimer la nature. Donc à côté des produits chimiques, des produits de biocontrôle, nous sommes membres d'un consortium public-privé. Nos membres, les entreprises, interagissent et cofinancent ce consortium. Mais au-delà, nos membres ont des partenariats avec le monde académique, avec des fondations, avec des start-up, des incubateurs de start-up. Donc, ça interagit énormément puisqu'il faut, comme dans tout secteur d'activité, être très agile, être à l'écoute vraiment des derniers éléments en termes d'innovation. Et donc, nos entreprises interagissent énormément avec le monde académique en France, en Europe.
Damien Bouévin.
En pensant justement à toutes ces innovations, ces nouvelles technologies, mais aussi par rapport aux défis de demain et puis l'opinion de la population sur certains types de ces produits, comment est-ce que vous voyez, vous, votre profession et les produits phytosanitaires dans 30 ans ?
Alors, on n'a pas de boule de cristal, mais on peut se dire qu'à la vitesse, souvent, les techniques, les technologies, l'agriculture a fait énormément de progrès si on regarde les 30 ans en arrière, et elle fera énormément de progrès pour les 30 ans à venir, j'en suis sûre. On voit déjà que en termes de mode de production, mais aussi de mode de consommation, les choses évoluent très, très vite. On a la chance en France et en Europe d'avoir un choix énorme en tant que consommateur. On peut choisir les produits qu'on consomme venant de modes de production différents. C'est vraiment une richesse. Et donc, notre rôle en tant qu'apporteur de solutions, on n'a pas expliqué pourquoi, mais c'est essentiellement pour combattre les mauvaises herbes, les maladies des plantes, les parasites d'insectes, etc. Donc, il faut être très, très innovant et s'adapter aux évolutions des agriculteurs français essentiellement, puisque on sommes surtout sur le marché français et européen pour les produits représentés au sein de l'association. Donc, être à l'écoute des évolutions des agriculteurs. Donc, demain, il y aura davantage la chimie de synthèse, la chimie naturelle sur laquelle se sont basées les dernières années.
Tout le développement de l'agriculture depuis la fin de la guerre. Enfin.
Voilà, donc c'est vrai que la protection des plantes, c'est basé sur la chimie, essentiellement la chimie de synthèse ou la chimie naturelle. Hein. N'oublions pas que le cuivre, le soufre utilisé en agriculture biologique, c'est de la chimie, mais c'est de la chimie dite naturelle. On a vu depuis 30 ans arriver des produits, comme j'évoquais tout à l'heure, de biocontrôle, c'est-à-dire être capable de mimer la nature, aller chercher des parades, entre guillemets, les plantes ou les insectes utilisent déjà et être capable de les reproduire en laboratoire. Donc, on utilise de l'arbre de coccinelle, on utilise des phéromones, on utilise des parasites pour, et ça, c'est le biocontrôle. Et on voit arriver depuis ces dernières années le digital, ce qui est traitement des données, la robotique, l'utilisation de drones.
Ah oui, le big data et puis et les capteurs, enfin tout l'univers numérique qui répond d'ailleurs à l'univers numérique de notre invitée Pauline de Chalandard.
Oui,
quelque part.
Alors pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourra être beaucoup plus précis en matière de diagnostic. On voit en santé végétale comme en santé humaine d'ailleurs, les bouleversements sont énormes, le changement climatique y est pour quelque chose, les espèces interagissent, évoluent très rapidement dû aussi aux échanges commerciaux. Donc on a effectivement un brassage qui fait que les bioagresseurs arrivent vite et arrivent très nombreux. Donc il faut être très capable, déjà d'avoir une bonne veille, d'avoir ce qu'on appelle une surveillance de territoire très robuste et d'être capable de diagnostiquer très précocement les problèmes.
Alors, donc vos défis, c'est la mondialisation et puis aussi les contraintes de respect environnemental et puis vos solutions finalement, c'est le numérique et puis la nouvelle façon de faire de la chimie. On peut le résumer comme ça ?
C'est surtout probablement la combinaison de tout ça et d'être capable d'apporter une solution adaptée à chaque type d'agriculture et à chaque mode de production. Les agriculteurs bio auront des demandes spécifiques. Ouais. Et les agriculteurs qui sont en cycle court, en vente directe, auront probablement d'autres... Parce qu'ils cultivent des variétés qui sont propices, par exemple, au type de vente qu'ils veulent faire. Et ils auront des problématiques spécifiques. Il faut donc que nous soyons capables d'apporter des réponses adaptées à chacun, adaptées au territoire, adaptées aux espèces cultivées et adaptées à l'évolution du climat et probablement les enjeux, bien sûr, environnementaux et de santé qui sont vraiment la toile de fond de toute innovation.
Eugénia Pomaret, directrice de l'Union des industries de la protection des plantes, on vous souhaite bonne chance dans cette démarche, dans ce combat et cette mobilisation avec les entreprises. Puis on nous souhaite bonne chance pour que vous nous apportiez des solutions raisonnables pour la suite. Merci à vous.
Merci à vous. Bonne journée.
C'était le Miroir des Sciences, une émission de François Legrand et Sébastien Berger avec Damien Bouévin à la chronique.
À très bientôt.
Merci à Pauline de Chalandard d'être venue en studio ce matin. Privée d'expo, au moins, vous êtes venue nous présenter votre travail. Et ça, c'est vraiment chouette. Merci à Timothée Jobert de la société ISKN AMI. Et puis, merci à l'instant à Eugénia Pomaret, qui est directrice de l'Union des industries de la protection des plantes, qui nous expliquait un peu la démarche de ces industriels qui sont parfois vus comme des gros pollueurs, mais qui font eux aussi, dans leur univers, et à leur niveau, des efforts en faveur de l'environnement et pour dégager peut-être des solutions qui sont plus raisonnables pour notre alimentation de demain. Illustration musicale exceptionnelle de l'émission, le groupe Tendre Mixeur. Un grand merci, un grand bravo à Marie et à Thierry de nous avoir prêté leur création. Le Miroir des Sciences est en réécoute sur les principaux flux de podcasts et sur le site de la radio RKS. Trouvez le blog de l'émission simplement en tapant le Miroir des Sciences sur votre navigateur préféré. À bientôt sur RKS, portez-vous bien.
L'info de proximité et le meilleur des tubes à Grenoble, c'est RKS.